Avec ce soir l'ancienne candidate à l'élection présidentielle, l'ancienne ministre Ségolène Royal, bonsoir. Bonsoir Alain Duhamel. La violence entre adolescents, on la voit avec deux histoires tragiques, avec Samara à Montpellier tabassée mais vivante, Chemsedi tabassée à mort à Viry-Châtillon. Et il fallait lui donner une leçon, c'est le scénario qui semble s'esquisser parce qu'il parlait sexe avec la sœur âgée de 15 ans d'un des assaillants. Se mêle donc dans ces deux histoires à la fois la violence, peut-être l'émancipation, pseudo-honneur bafouillé, peut-être aussi de la religion. Il y a une personne qui réagit en faisant part de toute sa colère et de toute sa rage ce matin sur RMC et BFM TV. Il s'agit de Mila. Elle avait été menacée de mort. Ce matin donc, elle criait sa colère face à Pauline de Malherbe.
On parle de laïcité au sein des établissements. Est-ce que la laïcité, elle est encore efficace aujourd'hui? Pour moi, la laïcité, elle est morte. Ces jeunes filles ont une pression vis-à-vis de leur entourage, mais qui est colossale. Que ce soit des jeunes filles qui sont dans les quartiers, qui peuvent pas forcément s'habiller comme elles le souhaitent. Moi, rien que dans mon entourage, j'ai des copines qui me disent, pour aller dans certains endroits, pour être acceptée avec telle personne, pour traîner dans certains quartiers, je porte une burqa et personne me fait chier. Et c'est le problème, c'est que avec ce genre de dictat, avec cette charia qu'ils imposent avec tellement de facilité finalement, y a des Samara qui se font tabasser. Y a des élèves systématiquement qui vont subir les mêmes acharnements. C'est que le début, ça va jamais s'arrêter puisqu'on n'est même pas capable de reconnaître le fond du problème.
Rappelons que pour ce qui concerne Chemsedine, c'était visiblement un guet-apens pour lui dire tu arrêtes de envoyer des textos sexuels à notre sœur. Mais le fond du problème, avant de parler de la laïcité et ce que Mila appelle la violence, la charia, c'est cette violence qui s'exerce plutôt que d'essayer de régler avec des mots ou en discutant, Alain Duhamel. Et c'est même au-delà de la violence, on appelle ça l'ultra-violence même. Comment lutter, que faire?
Bon, il n'y a évidemment pas une seule réponse. Moi, il me semble, la première, c'est que les adolescents, les enfants, vivent dans un univers de violence. Un univers de violence permanent. Chaque matin, on apprend que quelqu'un s'est fait tuer à Marseille. Chaque jour, on voit une agression contre ceci ou cela. C'est vrai des adultes, c'est vrai des adolescents. Les bandes qui se bagarrent de façon quelquefois épouvantable, les boîtes de nuit, etc. C'est vrai de ce que voient les enfants eux-mêmes. C'est vrai de ce qu'ils voient à la télévision quand ils la regardent. C'est vrai ce qu'ils voient sur les écrans. C'est vrai dès qu'ils ont des portables. Immédiatement, ils sont dans un univers où on peut constituer des petits groupes antagonistes, on peut faire des montages pour se moquer de X ou de Y, etc. Il y a une sorte d'éducation à la violence. Alors c'est déjà quand même un facteur qui est important. Ensuite, c'est lié, mais c'est parallèle, je dirais. Il y a l'affaissement des autorités. S'il y a autant de violence, c'est que les autorités ne sont plus respectées ou ne savent plus se faire respecter. Mais c'est vrai de toutes les autorités. Enfin, pour prendre un cliché, quand la France était rurale, dans un village, il y avait deux personnes qui étaient le curé et l'instituteur. C'était les deux personnages. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de curé et l'instituteur, on le met en cause, comme n'importe qui. Donc, il y a un problème d'autorité, mais ce problème d'autorité, c'est vrai de tous les personnages. C'est vrai des professeurs, c'est vrai des proviseurs,
des
responsables politiques, c'est vrai des responsables de la police, c'est vrai du monde entier. Bon, évidemment, tout ça, c'est pas...
Très encourageant.
Non, même, ça déforme au départ.
Oui. Non, c'est vrai, il y a une montée indéniable de la violence entre les jeunes, ça c'est indéniable. Quand on lit les rapports du Conseil national des villes, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est les maires qui sont en première ligne. Ils ont classé en quatre catégories les violences. Donc les violences, les règlements de compte entre eux, les violences verbales et les violences physiques, c'est ce qu'on a assisté. Il y a les violences contre les autorités. Il y a les violences, les vols avec violence et les violences sexuelles et les agressions sexuelles. Et ce qu'on observe, c'est que 80% des auteurs de violences peuvent être aussi victimes. C'est-à-dire qu'elles se connaissent. se connaissent, entre jeunes qui se connaissent. Et donc la question, effectivement, elle est celle de d'où vient cette violence. Moi, je crois qu'il y a deux choses. C'est que il y a eu cette violence a explosé à la sortie du confinement. Je le dis souvent, mais c'est vrai que contrairement à d'autres pays, il n'est pas trop tard, régler le problème de ce qui s'est passé pendant le confinement, où les adolescents ont passé des heures sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo. Et quand vous regardez les jeux vidéo et les réseaux sociaux, plus l'exposition à la pornographie, vous avez une violence intrafamiliale, une violence dans les quartiers pendant le confinement, qui s'est continuée après le confinement. Et la prise en charge du mal-être psychologique et de cette déformation de tous ces jeunes qui ont explosé dans leur tête, plus les conflits avec les parents, parce que les parents sont complètement démotivés dans la mesure où ils n'ont même pas
accès. Voire débordés.
Oui. Souvent d'ailleurs des femmes seules, soit qu'elles soient veuves, soit que les pères quand même disparaissent dans la nature, font des enfants, et il y a de moins en moins de pères qui assument leurs responsabilités. Mmh. Et donc elle a raison, quels sont les nouveaux repères d'autorité? Et comment est-ce que ces figures d'autorité sont cohérentes entre elles pour recadrer les enfants et pour identifier les souffrances le plus tôt possible, surtout?
Quand on voit, par exemple, les influenceurs aujourd'hui qui jouent le rôle que pouvaient jouer les pédagogues avant. Bon, ça n'est ni les mêmes méthodes, ni les mêmes messages, franchement, et ça ne forme pas... C'est pas le même type de pédagogie, hein, c'est même exactement à l'inverse. Et parmi les éléments qui jouent aussi, il y a quand même... sans dramatiser, mais l'affaissement du système scolaire et le fait que ce qui paraissait, alors c'est le cas évidemment des enfants et des adolescents qui sont scolarisés, ce qui apparaissait avant à la fois comme un entourage, comme une aide, comme un apprentissage et puis comme une forme d'entrée dans la vie positive, parce qu'on savait que c'était l'école qui permettait, l'école, le collège, pour ceux qui le pouvaient, le lycée, l'université, mais que c'était ça qui pouvait permettre d'espérer quelque chose de positif quand on est jeune. Aujourd'hui, l'école, c'est au contraire un sujet de, faut pas dire de désespoir, mais enfin un sujet d'anxiété. D'anxiété de la part des parents, d'anxiété de la part des enseignants, d'anxiété de la part des enfants. Oui, et tout ça...
L'école est là pour instruire. L'école, elle est là pour instruire.
Pas seulement.
Elle est là pour faire passer le savoir, pour vous aider à vous émanciper. Et puis après, il y a aussi ce qui se passe quand vous sortez de l'école, ce qui se passe chez vous, ce qui se passe dans le quartier, les règles du quartier. C'est là-dessus qu'insiste Mila en disant l'école les règles laïque. Du quartier sont beaucoup plus fortes aujourd'hui que l'école.
L'école laïque, bien sûr que c'était un apprentissage de la connaissance.
Elle est morte, la laïcité, dit Mila.
On va peut-être en parler, mais... L'école laïque, c'était à la fois l'apprentissage normal, scolaire, mais c'était aussi l'apprentissage de règles de vie en commun. On apprenait à l'école primaire, à l'école secondaire. C'est ce que voulait l'école.
Il y avait les familles, c'est ça. Il y avait les familles qui étaient en cohérence. Un enfant qui avait une punition, les parents consolidaient la punition. Oui. Mais ne venait pas en contestation de la punition dans le milieu scolaire, sous prétexte que la punition était injuste. Donc c'est cette question de la cohérence, et pour remettre de la cohérence dans les quartiers, il faut que les adultes aient une capacité de dialoguer entre eux. Les atteintes des jeunes contre l'autorité, c'est les attaques contre les policiers. Donc il faut remettre de la police de proximité, c'est-à-dire renouer le dialogue et la confiance entre les jeunes et la police. Et je crois vraiment qu'il faut remettre la police de proximité. On le dit souvent, mais c'est vraiment une question clé par rapport à cette confiance pour que l'autorité de la police puisse travailler avec l'autorité éducative. Et elle a raison, il faut remettre de la réussite scolaire, parce que l'agressivité des jeunes contre l'école, c'est quand ils sont en échec scolaire. Mais pas de la faute des professeurs seulement, c'est aussi de leur faute à eux par rapport à l'encadrement et à l'encadrement de la réussite scolaire. Moi, je suis favorable à l'entrée de la police dans les établissements scolaires. C'est un tabou. Je l'avais fait quand j'étais mise dans l'enseignement scolaire sur la base du volontariat, dans des expérimentations où la police ou la gendarmerie pouvaient venir dans l'établissement scolaire avec un rôle éducatif. Il expliquait la loi, ce qui était interdit, ce qui n'était pas. Il était présent dans la cour de récréation. Ça faisait un uniforme dans la cour de récréation. Ça incarnait quand même la loi et l'autorité en bienveillance, en éducatif, mais c'était quand même très efficace. Deuxièmement, la police et la gendarmerie à la porte des établissements scolaires. c'est indispensable. C'est souvent dès la sortie qu'il y a de la maladie.
Et ça aurait empêché Samara, ça aurait empêché.
Je pense, c'est très dissuasif. Oui.
S'il y avait eu un gendarme.
Ce qui n'empêche pas de tabasser 100 mètres plus loin, pardon.
Ils font des rondes, ils sont vus. On les voit plus dans la rue. On les voit plus dans les quartiers. Or, quand on voit le nombre de policiers qui ont été recrutés, y compris pour les gilets jaunes, les mouvements sociaux, etc., pourquoi aujourd'hui ces policiers ne sont plus présents dans les quartiers, dans les rues, à la porte des établissements scolaires? Est-ce qu'il ne faut pas redéfinir la fonction, élever le tabou de la non-présence des policiers? C'est un service public, la police. Et pour terminer, je dirais qu'avant, il y avait un rite initiatique qui était le service militaire. Bon, je l'ai toujours dit, donc je peux le redire.
Moi,
je
pense que c'était une erreur de
le supprimer. Et je suis pour l'encadrement militaire des délinquants ou des pré-délinquants ou des gamins violents pour qu'on les sorte des quartiers, qu'on leur donne une activité intéressante, d'intérêt général. Aujourd'hui, regardez, il y a les
inondations. Encadrement, c'est-à-dire quand il y a une faute, on reprend le gamin en main, c'est ça ?
Mais on lui donne une activité, comme il y avait au service militaire. Vous savez, au service militaire, quand les jeunes arrivaient, ceux qui ne savaient pas lire.
Ouais, mais enfin, il faut lui donner une activité qui a un sens. On ne va pas lui dire, ah, mais tu balayes la cour, la caserne, quoi que ce soit.
Mais il y en a des activités, intéressantes.
Puis on peut leur apprendre des choses intelligentes et utiles.
C'était dans ma circonscription. Les jeunes qui venaient là, mais c'était formidable. On leur apprenait le sport. On leur faisait faire des activités.
Même les militaires disent qu'ils ne sont pas là pour ça.
Parce qu'il y en a beaucoup qui ont disparu.
Et parce qu'on a voulu une armée de métiers pour qu'elle soit efficace et opérationnelle rapidement.
Il faut peut-être les réinventer.
Vous avez entendu le coup de gueule de Mila. Elle dit qu'aujourd'hui, en fait, la laïcité, elle est foulée aux pieds, que c'est la loi du quartier, elle va plus loin. Elle dit que c'est même la loi religieuse. Oui. Elle parle de charia qui est en train de gagner et de prendre du terrain et qu'on s'est couché, en fait, devant.
Oui, alors ça, c'est exagéré, le fait qu'on soit couché devant. Ouais. Que la laïcité, oui, mais non, c'est pas ça en ce moment. Enfin, ni en ce moment, ni d'ailleurs les années précédentes. Aujourd'hui, il y a une attaque contre la laïcité et qu'elle vienne d'une forme de communautarisme très minoritaire, mais néanmoins dangereuse.
Très minoritaire.
Bah oui, très minoritaire. Mais c'est vrai qu'il y a une agression en ce moment contre la laïcité. C'est vrai qu'elle vient pour l'essentiel d'un communautarisme. C'est pas le fait d'être arabe, c'est pas le fait d'être musulman, c'est le fait d'être communautariste, c'est-à-dire de vouloir imposer ses formes de société.
D'être resté entre soi.
C'est vrai que ça existe et qu'il faut pas dire le contraire. Mais c'est vrai que présenter la laïcité comme la laïcité vaincue, la laïcité battue et la laïcité marginalisée, c'est le contraire de la réalité. La laïcité, d'abord, c'est vraiment une particularité française, une identité française. Deux, elle a des soutiens énormes. Enfin, la laïcité, elle a derrière elle tous les syndicats d'enseignants, elle a derrière elle tous les partis politiques. C'est de l'extrême gauche à l'extrême droite. Tous sont contre les communautarismes, en gros. Ben oui, pour des raisons opposées. Tout le monde, les politiques contre la laïcité, moi, j'en ai beaucoup connu.
Disons qu'ils l'ont à géométrie variable, peut-être, aujourd'hui.
Dans mes livres d'histoire, il y en avait beaucoup. Mais aujourd'hui, franchement, un homme politique contre la laïcité, il n'y en a pas énormément. Ça m'intéresserait que vous me disiez un nom.
Regardez, du côté, par exemple, de la France insoumise,
la laïcité.
J'ai pas dit qu'ils étaient contre la laïcité, mais on s'accommode quand même d'un certain communautarisme.
C'est autre chose. Mais on peut pas dire que Mélenchon, franchement, c'est pas ma tasse de thé, mais on peut pas dire qu'il est pas laïque.
Ségolène Royal.
Mais je pense que le problème ne peut pas être politisé. Le problème, c'est que les radicalisés veulent imposer leurs lois.
Communautaires
et donner de la visibilité à la charia qui est censée remplacer la loi de la République. C'est ça la radicalisation. Et comme par hasard, la visibilité de la religion, c'est toujours sur les femmes. C'est-à-dire remettre le voile aux femmes, remettre la baya et l'entrisme.
Leur dire avec qui elles doivent aller ou pas comme garçon. Apparemment, c'est le cas de Semchidine.
Être subordonnée.
Les filles, elles sont doublement victimes parce que non seulement elles subissent et elles font subir à d'autres, et elles pensent aussi pour certaines que c'est leur dignité d'accepter ça parce qu'elles sont elles-mêmes radicalisées ou elles subissent un rapport de force dans la famille ou des frères qui les forcent pour garder un peu de liberté à mettre le voile et de se taire. Ou elle conteste ça, et à ce moment-là, elle subit des violences, ou on les punit parce qu'elles vont, elles ont des amourettes avec des garçons qui ne sont pas, qui ne font pas partie de ce clan radicalisé, et elles subissent des punitions sexuelles. Ça, il faut bien le savoir, dans le quartier, dans la famille, avec les cousins, voire avec les frères. Et dans ce rapport sur des villes que j'évoquais tout à l'heure, on voit des cas concrets qui sont passés bien sûr en justice, où on voit des mesures de rétorsion sur les filles, soit qui n'ont pas voulu porter les vêtements radicalisés, soit au contraire qui se sont trop émancipées. Donc il y a un lien très étroit,
et ça passe comment,
entre
alors,
l'émancipation et le respect du droit des femmes, que sur des discours théoriques sur la laïcité qui ne sont pas forcément compris, parce que la voie d'action des radicalisés, c'est l'instrumentalisation des femmes.
Alors comment on combat ? Parce que c'est ça la question.
Il y a une attaque contre la laïcité, c'est un fait. Dans le passé, il y en a eu d'autres d'ailleurs au moins aussi puissantes. Mais aujourd'hui, il y a cette attaque-là. Bon, ça ne veut pas dire que la laïcité, ce soit quelque chose de fragile et qui est en train de se déconstruire. D'ailleurs, on voit très bien toutes les réactions politiques, et là, c'est pas une question de majorité simplement. Toutes les réactions politiques, c'est plus de fermeté, plus de vigilance, plus de moyens. Alors, oui, plus vrai. De moyens, en ce moment, ça tombe pas forcément très bien. Mm-hmm. Plus de personnel aussi. Je veux dire, ça a été parmi les grosses erreurs. Vous parliez de la police de proximité, et je ne disais rien parce que j'étais d'accord avec vous. Mm-hmm. Je pense que la police de proximité, c'était une très bonne expérience, oui, et qui fonctionnait bien. Mais aussi les animateurs sociaux, on en a coupé la moitié, mais ils jouaient un rôle qui était positif, et justement, ils étaient capables de jouer les intermédiaires.
Le brassage des populations est aujourd'hui beaucoup plus important.
Oui, enfin, les animateurs sociaux, Alain, c'est pas pour le 16e arrondissement.
J'ai bien compris, mais le brassage est aujourd'hui plus important. Il y a des communautés subsahariennes qui étaient beaucoup moins présentes en France,
c'est
qui
vrai?
Aujourd'hui ils sont là.
Oui.
Il y a le pouvoir des réseaux sociaux, la puissance anglo-saxonne, où vous avez des jeunes filles ou des jeunes garçons qui disent, mais pourquoi à Londres ou en Allemagne, ils peuvent le faire et moi je
parce
ne peux pas le faire en France.
Parce que la laïcité est une partie...
Donc il a l'impression d'être bridé dans sa liberté.
La laïcité...
Les coupe-boutoirs, ils viennent
de là aussi.
La laïcité,
c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
J'entends bien.
Dans un mot, la laïcité, ça n'est pas une valeur universelle, c'est une particularité française. C'est une culture française, c'est une histoire française et ça fait partie de ce qu'on est. Bon, donc c'est pour ça que il y a énormément de force pour défendre la laïcité, même
merci.
Si en ce moment
un dernier mot,
c'est qu'il n'y a pas de repères positifs dans les quartiers. On n'en parle que quand il y a des problèmes, que quand il y a de la violence. Donc quels sont les repères d'identification que les jeunes peuvent avoir? C'est souvent soit des footballeurs, soit des rappeurs qui sont multimillionnaires. Et donc, ils sont aussi confrontés, y compris via les réseaux sociaux, à un mode de vie auquel ils n'auront jamais accès.
Et donc, comment
est-ce qu'on retrouve des images d'identification, de réussite, d'ascenseur social dans les quartiers ?
On ne met pas en valeur les réussites qui sont beaucoup plus nombreuses que ce qu'on raconte, les réussites sociales, j'allais dire ordinaires.
Qu'on ne voit jamais. Mais on va le voir sur BFM grâce à ce débat.
J'espère. Merci Alain Duhamel, merci Ségolène Royal.